Je ne veux pas vous compliquer la vie, dites-moi. Bonjour, je suis désolée du retard. Il y a des moments où tout est fluide et puis des moments où il y a des arrêts, des problèmes à chaque étape. Ce n'est pas grave, je suis là, je suis contente d'être là. Je remercie Madame Dupont de m'avoir impliquée dans ce travail quand même compliqué. Alors, moi je suis Irène François Purcell, je suis chef de service, je suis psychiatre de formation initiale. Comme je me suis intéressée à la criminologie, je me suis retrouvée un petit peu à faire de la médecine légale et à structurer au CHU de Dijon le service de médecine légale. À la suite, on m'a demandé de prendre la cellule d'urgence médico-psychologique, puis le centre du psychotrauma. Donc, ce dont on parle, les conséquences des violences, c'est mon quotidien depuis 35 ans. Voilà. Ce que je voudrais... Voilà. C'était très compliqué. J'ai fait je ne sais combien de brouillons, de tentatives, parce que le sujet est quand même extrêmement complexe et on peut très vite se noyer. Donc j'ai choisi de resserrer. Je pense que c'était un petit peu tout ça. Donc forcément, il va y avoir des ellipses et des choses qui ne vont pas, mais il y a des éléments qui me paraissent importants à apporter. Vous avez vu mon... Voilà, l'ITT psy, ça existe, je suis désolée. Le psychisme existe. Donc le psychisme peut se trouver en panne. Donc il y a une incapacité de travail du psychisme. Je suis désolée. Mais bon, je vais vous montrer comment j'en suis arrivée là. Concrètement, comment les choses se sont déroulées, si on regarde en fait ce dont on travaille aujourd'hui, c'est une question millénaire qui est de comment réparer... comment réparer les violences. Voilà, il y a un élément, alors j'ai choisi, je pense que vous avez tous une culture suffisante pour que vous avez tous l'histoire de la victimologie, l'histoire de tout ça, on ne va pas le refaire. Moi je vais commencer en 1804, mais ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de trous dans mon truc. Pourquoi 1804? Parce qu'en 1804, c'est le code pénal, et le code pénal qui définit la première ITT, incapacité totale de travail personnel. Cette... Alors là, s'il commence à me faire... Alors, je ne sais pas, vous pouvez peut-être... Je ne sais pas ce qu'il y a sur le diaporama. Voilà. Voilà. Donc, cette ITT, alors c'est un de mes mentors, le professeur Debout, qui m'avait dit que l'ITT en 1804, c'était quand un ouvrier ne peut pas travailler pendant une journée. Alors, j'ai jamais su d'où il a sorti ça, mais n'empêche que c'est congruent avec le fait qu'à cette époque-là, on commençait à s'intéresser au sujet, à l'individu, qu'à cette période, il y a eu aussi la présomption d'imputabilité des accidents du travail. Alors, pourquoi je prends ce repère-là? Parce que c'est un repère légal. Jusque-là, quand il y avait des agressions, des violences, eh ben, il y avait de la négociation sur l'indemnisation. Là, maintenant, il y a quelque chose de légal, alors, dont il faut qu'on fasse quelque chose, mais je pense que c'est quelque chose qui est très important. Donc, alors, oh là 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 là, en plus, je ne suis pas douée en informatique. Donc, voilà. 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 Ce qui est mis en évidence, en tout cas, dans cette histoire même de 1804, c'est que c'est la gravité des blessures et leurs conséquences fonctionnelles par rapport au travail qui sont mises en cause. Et ça fait partie aussi des débats, des problèmes que l'on a. Est-ce que c'est la blessure ou est-ce que c'est le retentissement fonctionnel qui est embêtant? Ça fait partie des questions compliquées. En fait, on assiste là au début de la psychologie qui permet de reconnaître ces troubles, je l'ai vu. Alors, je vous ai dit que ça allait être un peu elliptique. Cette ITT, elle est restée en tant que telle pendant assez longtemps. Et en 82, quand même, il y a un élément important qui dit que les limites de la notion d'ITT ont été précisées donc, par un arrêt de la Cour d'appel, de cassation, vous le savez, qui dit que c'est toute gêne significative, ce qui est beaucoup plus fonctionnel, du coup, ce qui est beaucoup plus... Mais ça pose d'autres questions. Ça pose d'autres questions, ça donne une souplesse, mais ça pose d'autres questions. Je saute encore les années. En 94, l'incapacité totale de travail personnel, le personnel disparaît. Je me rappelle, j'y étais, mais je n'ai pas compris ce qui s'est joué, très franchement. J'étais juste jeune interne. Et en fait, les débats, ça c'est resté comme ça. Je pense qu'il y a des gens dans la salle qui savent. Ce qu'il y a de sûr aussi, c'est qu'à cette période-là, j'étais en formation, j'ai fait ma formation médico-légale à Lyon, avec le professeur Védrine, qui était psychiatre, et le professeur Védrine m'a dit que, de toute façon, que quand quelqu'un ne peut plus penser, ne peut plus réfléchir, c'est une incapacité totale de travail psychique. Donc là, on est dans les années 90, quand même. Voilà. J'ai gardé ça un petit peu pour mon cas. J'ai peut-être j'ai fait des modifications. Par ailleurs, il y avait quand même régulièrement dans les réunions de la Société française de médecine légale, que j'ai côtoyé quand même assez longtemps, des débats là-dessus. Est-ce qu'il faut indemniser ou pas les troubles psychiques, avec des discussions quand même un peu... qu'on n'entendrait plus maintenant, hein. Moi, je me rappelle avoir eu une discussion, ça avait été très, très chaud, des gens qui avaient dit « ça se mesure pas ». Ça se voit pas. Quelqu'un m'avait dit, c'est pas scientifique, l'ITT psy, d'accord. Je sais pas ce que ça veut dire. Trop de risques de falsification aussi. Ce qui montre au passage quand même la représentation qu'ont nos chers confrères du travail psychique. Les discussions s'animent à chaque fois qu'il y a de nouveau des mouvements, soit des événements, soit des décisions prises l'un à l'an sous l'an avec l'autre. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi des discussions importantes au moment des attentats de 86. Et là, ça, j'ai des souvenirs assez précis avec l'importance du rôle de Madame Rudetsky, un petit peu avant la loi Badinter, et beaucoup de anti-reconnaissance du psychisme qui réagissait en disant qu'on s'en sortira pas. Et surtout, ce que ça m'a montré sur ce parcours, c'est à quel point chaque fois qu'on donne quelque chose aux victimes, à quel point ça provoque des réactions. Je me rappelle quand pour la loi Badinter, les gens ont dit c'est facile, hein, ils ont qu'à traverser la rue n'importe comment et ils vont être riches, quoi. Je l'ai entendu de certains de mes patrons. Hein. On part de loin. Pour revenir sur des choses un petit peu plus 2008, la loi de 2008 crée des nouveaux droits pour les victimes et amélioration de l'exécution des peines. Et ce qui nous rapproche un petit peu plus du problème, la loi du 9 juillet 2010 crée une ordonnance de protection pour les victimes dans le code pénal et le délit de harcèlement moral. Donc là, qu'on le veuille ou pas, il y a quand même... Alors on parle de morale, on ne parle pas de psychisme, mais quand même, c'est un peu la même chose. Et donc là, c'est un moment important qui fait un bruit, qui ne fait pas le bruit qu'il aurait dû faire. Et effectivement, en 2010, la mise en place de l'Organisation régionale de la médecine légale. Je vous laisse suivre, madame, vous connaissez. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Non, on est bon, on est synchro. Alors, ça, c'était quelque chose de très important. C'est vraiment une petite révolution. Jusque-là, d'ailleurs, Desrobert, le chef de service de la médecine légale de Paris à l'époque, avait dit que la médecine légale ne pouvait pas se faire à l'hôpital, qu'elle devait se faire uniquement dans les instituts médico-légaux. Et je fais partie, moi, de la génération où on a essayé de ramer un peu contre ça. Ça a mis beaucoup de temps à se faire. C'est-à-dire que c'était des instituts médico-légaux qui travaillaient à l'acte. J'ai pas dit qu'il travaillait mal. Hein. Desrobert, si, pour apprendre la médecine légale, c'est vraiment remarquable. Et donc ça a travaillé quand même pendant pas mal de temps. Il y a eu des tentatives, des échecs, et puis en 2010, fin décembre 2010, on nous apprend que la médecine légale intègre les hôpitaux. Et ça, c'est quelque chose, c'est-à-dire que cette réforme, elle nous remet comme des médecins normaux, j'allais dire. Voilà, moi j'insiste beaucoup, on est médecin, c'est pas parce qu'on ne sauve pas des vies tous les matins qu'on n'est pas médecin, on peut être soignant et on peut être utile aux personnes en difficulté. Ce qui vient avec, c'est effectivement une dotation, alors un maillage national, avec des sites pivots, et c'est-à-dire que les autopsies doivent être faites uniquement dans les sites pivots, et puis normalement on devrait pouvoir mettre des unités médico-judiciaires sur un maillage qui permettrait que personne ne fasse trop de kilomètres pour une ITT, etc. Ça, c'est un peu du rêve pour l'instant, sauf dans certains endroits. Mais enfin, comme toujours, il y a une dotation, et la dotation n'évolue pas. Voilà. Donc, en ce qui concerne, moi, je suis sans doute la plus petite unité médico-judiciaire de France, on a plus que multiplié par deux notre activité, que ce soit sur les victimes vivantes, que ce soit sur le mort. Non seulement on n'a pas été augmenté, mais le Ségur, apparemment, n'est pas passé par la justice. Donc, c'est quand même un peu compliqué. Donc, mais enfin, bon, on a des conditions de travail qui permettent aussi de clarifier les choses. Et donc, effectivement, alors au départ, on devait faire tout examen sur réquisition. Et puis, progressivement, comme il y avait un lieu où on pouvait mettre, on nous a mis les âges osseux pour les déterminations d'âge osseux pour les enfants. Très contestable et très contesté, mais on en voit encore de temps en temps. De moins en moins, on essaye de pas... Enfin, c'est très compliqué, ça aussi, à tous les niveaux. Et puis, ce qu'on nous a rajouté aussi, c'est les certificats de non-excision. Voilà. Alors, au début, je me suis dit, oh, il va y en avoir deux tous les tremblements de terre. Il y en a tous les jours. Tous les jours, même à Dijon. Alors, c'est extraordinaire. Il y a des circuits qui y viennent de toute la France faire constater ça aussi, quand même. C'est très dérangeant sur le plan éthique et psychologique. Quand ce sont des bébés, ça va. Quand c'est des gamines de 12-13 ans, ça devient franchement très dérangeant. Voilà. On est aussi très sollicité pour les demandeurs d'asile qui veulent des attestations de leurs blessures. Je pense que vous avez tous vécu cette problématique. À un moment donné, j'en ai reçu. Et puis là, maintenant, je ne peux plus. Je ne peux plus parce que l'UMJ me prend trop. Là aussi, c'est un vrai débat éthique. Avec tout ça, actuellement, donc, on nous a proposé d'avoir effectivement des psychologues dans les UMJ. Psychologues, effectivement, comme l'a dit Madame Dupont, financés par l'assurance maladie. C'est extraordinaire parce que ça veut dire que le soin entre en médecine légale. Et je peux vous dire qu'il y a quand même des gens... Alors, moi, j'étais psychiatre, donc... Enfin, je suis toujours psychiatre, aux dernières nouvelles. Ce que je veux dire, c'est que la notion de soins... J'ai toujours dit à mes élèves, quand vous prenez en charge quelqu'un qui a pris un coup dans la figure, vous faites de la psychiatrie, parce qu'on s'intéresse à ce qu'il dit, à ce qu'il raconte. Enfin, c'est pas... La médecine légale, c'est pas seulement la description d'un bleu, d'une bosse, au millimètre près. Il y a tout ce qu'il y a autour, et ça, enfin, s'en priver, c'est vraiment débile. Mais, donc... parce que je suis très bavarde, donc j'essaye de limiter, mais ça marche pas. Voilà. Donc le soin, il y a du soin en médecine légale, et ça, c'est vraiment une révolution, et c'est une très belle révolution. Je ne parlerai pas du travail des psychologues en UMJ, parce que vous êtes toutes là pour en parler, et je suis très très attentive, et ça m'intéresse beaucoup de voir comment vous allez vous dépatouiller de tout ce qu'on vous a proposé, parce que c'est quand même très très compliqué. Nous, on y a gagné aussi en tant que médecin, parce que ça facilite quand même du fait qu'on est... Alors moi, j'ai obtenu que l'unité médico-judiciaire soit sur le plateau des urgences. Donc ça circule directement. Ça permet qu'il y a vraiment des échanges et qu'on essaye de voir. Ce que je voudrais dire aussi là quand même, c'est que la médecine légale n'est pas devenue un lieu de soins du jour au lendemain. C'est pas ça que je veux dire. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'effectivement, il y a des liens qui ont pu se faire avec les associations d'aide aux victimes. Ça a été important aussi, qui était plus difficile avant. Les portes s'ouvrent, bien sûr. Chacun s'organise. Alors, c'est vrai que vous souffrez beaucoup, apparemment, de l'hétérogénéité. Mais je vois pas, vu comment les choses se sont construites au niveau de la médecine légale, je vois pas comment quelque chose qui se construit en médecine légale pourrait être homogène. Parce que je ne sais pas combien j'ai de collègues dans la salle, je sais qu'il y a Laurent, on n'est pas d'accord, mais ce n'est pas grave, on se parle. mais voilà, c'est toujours, on a pas tous la même vision de notre discipline. C'est curieux, hein, y a des spécialités où ils parlent tous pareil, nous on n'y est jamais arrivé, et ça nous fait du tort. Alors là-dessus, les choses continuent à jouer. Voilà. En 2011, la Haute Autorité de Santé produit un modèle de certificat médical. La Haute Autorité de Santé qui précise que certificat, moi j'ai trouvé très complet, qui parle des aspects psychiques, qui dit que les aspects psychiques font partie des éléments à prendre en compte. Et l'évaluation de l'ITT s'applique aux troubles psychiques et physiques, source d'incapacité, c'est-à-dire toutes les fonctions de la personne. Donc là, s'il y en a qui n'ont pas compris, ça devient grave. Mais il y en a qui n'ont toujours pas compris. Alors, je vais vous demander de mettre. En 2012, la Société française de médecine légale a organisé, de la part de Patrick Chariot à l'époque, une réunion spécifique sur l'ITT psy. Et alors, par contre, je ne sais plus par cœur qui y était, mais il y avait du monde. Donc, il y avait Patrick Chariot, qui était le responsable de l'unité médico-judiciaire de Bondy. Qu'est-ce qu'il y avait voilà, Monsieur Bécache, procureur. Je ne sais pas s'il est encore là. Moi. Sur les violences psychologiques, il y avait le professeur, il y avait Monsieur Dantchev, docteur Dantchev. Il y avait quand même du monde, hein. Il y avait le retentissement des violences, il y avait le professeur Fournier, je me rappelle, Proust, et Pierre-André Delplat de Toulouse. Donc ça a fait du monde. J'ai retrouvé ce document qui fait dire quand même qu'on a essayé de se saisir de la situation, et c'est intéressant parce que beaucoup de choses ont été dites. Alors je vais vous passer au suivant parce que je crois... Non mais je l'ai noté. Qu'est-ce qu'il avait dit, Patrick Chariot, à l'époque? Je vais vous le dire, si j'arrive à ne pas trop me battre avec mon ordinateur. Il avait donc repris toute l'histoire, et il faisait le constat suivant. Les principes de détermination se fixaient dans un texte de recommandation professionnelle. Jusque-là, on est d'accord. Les modalités concrètes d'évaluation ne sont pratiquement pas abordées. Et il existe une hétérogénéité des pratiques. Donc, voilà. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que ça a été un départ et qu'on a travaillé à partir de là. C'est surtout ça qui me paraît important, c'est pas le fait que ça avance ou pas, c'est forcément quelque chose à bouger. Ce qu'il proposait, c'est une prise en compte concrètement du retentissement psychologique des violences dans la détermination de l'ITT, la traduction en termes d'ITT de violence psychologique dans le couple, c'était le début un petit peu de cette prise de conscience. La question de l'évaluateur, est-il somatique ou pas? Et puis il y a beaucoup de choses autour de l'évaluateur. La prise en compte de l'atteinte à la vie de relation dans la détermination de l'ITT et la détermination de l'ITT aux âges extrêmes. Et il posait des questions sur l'utilisation des parquets par l'ITT, faisant remarquer que de plus en plus, ce qui aggrave les violences, c'est plus la nature des violences et le fait que les violences sont prises différemment en compte que l'ITT, mais ça c'était à discuter. Donc voilà. Alors moi, qu'est-ce que j'avais dit à ce moment-là? Alors, je suis un peu rigide. Moi j'avais posé la question, est-il possible d'avoir une atteinte physique sans conséquences psychiques? Si je vous marche sur le pied, ça ne va peut-être pas vous faire un gros psychotraumatisme, mais vous allez quand même avoir une réaction. Voilà. Et une agression psychique est-elle sans conséquences somatiques, quand on sait que le psy s'exprime dans le corps? Voilà. Ils n'ont pas répondu, les collègues. Ce que j'ai posé aussi comme question, les limites du retentissement. À partir de quand est-ce que le retentissement est normal ou il devient problématique? Je crois que la question reste toujours ouverte. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que cette fameuse ITT qui nous rend un peu dingue. Oh là 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 là, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas bouger quand je lui demande celui-là, c'est casse-pied. Voilà. Je me suis aperçue quand même que l'ITT, c'est une notion extrêmement floue et dont beaucoup de gens se sont saisis sans trop comprendre. On voit dans les UMJ, les gens ils disent, je veux des ITT. Je pense que vous avez tous eu des gens qui sont venus vous dire, écoutez, si vous ne me mettez pas au moins 15, j'amène mes copains. Enfin, je pense que c'est arrivé à beaucoup de gens. Et c'est-à-dire que l'importance du chiffre d'ITT, finalement, des fois, on se casse vraiment la tête, savoir si on met 11 ou 12, ça change tout, etc. Alors, pour beaucoup de gens, enfin, moi, j'ai l'impression, dans ce que je constate, c'est que le taux d'ITT, enfin, le nombre d'ITT, le chiffre, est une sorte de reconnaissance de ce qu'ils ont vécu, de reconnaissance de leur souffrance, et dont la signification est complètement déconnectée de la valeur pénale éventuelle. Et ça, c'est quand même important, la façon de... Voilà, s'ils n'ont pas assez d'ITT, s'ils sont pas bien entendus, s'ils sont pas assez d'ITT, ils sont pas entendus. Il y a aussi quelque chose à quoi je suis... Enfin, on est également... Moi, c'est dans les violences conjugales, surtout, où le mari voit, ça fait une fois qu'il fait une ITT de 3 jours pour la dame, et puis il dit, j'en ai marre, il faut que ça s'arrête tout ça, je lui mets 15 jours, et comme ça, au moins, ça va bouger. Voilà, ça c'est des choses aussi. Donc cette ITT, elle a quand même beaucoup d'autres significations que uniquement l'élément pénal. Et ma question, c'est est-ce que l'ITT vraiment un bon outil pour évaluer la gravité d'une situation ? Parce que la gravité médicale d'une situation, elle est parfois paradoxale. Je me rappelle on a eu un truc un peu important où on a quelqu'un qui a foncé sur 5 ou 6 personnes. Et il y a une personne qui a eu un trauma crânien et sa compagne, une entorse de cheville. Le trauma crânien, il va bien. L'entorse de cheville, elle peut toujours pas mal marcher 3 ans après. Voilà. Alors qu'au départ, on a dit, oh là, trauma crânien, oui, il y a une perte de connaissance, oui. Mais voilà. Et des histoires comme ça, où dans le même accident, des gens ont eu des blessures... je me rappelle une jeune femme qui avait une rupture de rate. Au bout de 10 jours, elle est sortie sur ses 2 pieds à l'hôpital. Son mari qui avait un fracas du bassin, il a eu 6 semaines d'hospitalisation, il ne sort pas. Donc la gravité, c'est quelque chose aussi qui n'est pas clair dans l'esprit. Alors, l'ITT là-dedans. L'ITT, ce qui est très amusant, si vous voulez, c'est que, bon, moi je suis psychiatre... les collègues médecins légistes sont gentils avec moi, sont pas irrespectueux, mais enfin, on est quand même un peu des doux rêveurs, nous, les psychiatres. Et alors, avec l'ITT, Laurent, t'es d'accord ? Tout d'un coup, ah ben non, l'ITT psy n'existe pas. Ça a été devenu un truc, et il y a eu un moment quand même où ils n'arrivaient pas à en sortir de là. Moi, ce que je dis, je reviens sur l'idée, c'est que le psychisme existe. Et que le psychisme, quand il ne fonctionne plus, ça s'appelle une incapacité totale de travail psychique. Alors, est-ce que c'est une ITT psy ? J'en sais rien. En tout cas, c'est le travail psychique qui ne se fait pas. Ça s'appelle de la sidération, ça s'appelle de la dissociation, ça s'appelle de la stupeur, ça s'appelle tout ce que vous voulez. Il y a une expression corporelle, bien sûr, mais ça existe. La première difficulté, c'est déjà de repérer les signes chez les patients et de les interpréter de manière pertinente. Alors ça, c'est quelque chose pour avoir fait des interventions avec des gens qui n'étaient pas formés aux violences. C'est compliqué. Hein. Voilà. Donc, 15 minutes ? Mon Dieu. Particularité note. Donc, ce que je voudrais redire, c'est que le psychisme, il bouge sans arrêt. Il bouge sans arrêt. Les patientes, aujourd'hui, elle va bien. Demain, elle ne va pas bien. Après-demain, ça revient, etc. La temporalité, suivant quand on les voit, comment on les voit, ce n'est pas du tout la même chose. On ne peut pas dire aujourd'hui, elle est comme ci, aujourd'hui, elle est comme ça. Quelqu'un qui n'a pas de manifestation majeure peut en fait s'effondrer au bout de quelques semaines. Il y a aussi le problème des gens qu'on récupère 6 mois après, qui viennent, etc. Donc, il y a quand même une mobilité... on en reparlera du psychisme, qui fait que ce n'est pas une fracture de jambe, on n'a pas de repère. On n'a pas de repère, on a des fois avec un peu d'expérience, on se dit celui-là il va sans doute aller bien, celui-là il va sans doute aller mal, mais enfin c'est quand même... voilà. Et donc c'est très difficile d'extrapoler la durée de l'ITT, déjà de la définir et de l'extrapoler. Je pense aussi qu'il y a dans l'évaluation, et ça je l'ai vraiment vu à Nice, un effet sur l'évaluateur. J'avais déjà fait quelques années avant un travail de thèse ou pour la même blessure, si c'était une violence, les médecins mettaient plus que si c'était pas une violence, pour la même fracture de bras. Donc il y a ça avant. Avant de laisser celles et ceux qui travaillent là-dessus, je voudrais, donc je vais conclure comme ça, que la question de l'évaluation est délicate. Il est question de psychisme, et là c'est un peu mon credo, ça doit être traité par des spécialistes du psychique. Que ce soit des infirmiers psy, que ce soit des psychologues ou des psychiatres, il faut que ce soit des gens qui connaissent le psychisme. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est aussi important de travailler dans ce domaine-là, de travailler ce que c'est que la violence et de comprendre la violence. Parce qu'on on voit arriver, j'ai vu arriver sur les dispositifs, à ceux qui ont fait, qui sont sur les attentats, etc., ou sur des interventions comme ça, on a des gens qui ont une belle formation théorique du psychisme, et puis quand il faut faire un truc en urgence au bord du trottoir, c'est plus compliqué. Donc il faut vraiment des gens qui... Et puis, moi j'ai vu des jeunes psychologues qui étaient complètement submergés par la violence. Donc il faut des gens qui aient travaillé la question. Ça, c'est extrêmement important. Je tiens aussi à ce que le retentissement psychique soit identifié et lisible. Ça, c'est... Il n'y a pas de raison que le psychisme se dilue dans les autres souffrances. Il a été question lors de la préparation de cette réunion du problème du parcours du certificat médical initial. Ce certificat médical initial doit être lisible. Il ne faut pas qu'une victime dise « Ah ben oui, il y a 2 ans, quand j'ai vu l'expert, il m'a parlé de quelque chose, mais je ne sais plus, c'est parti dans le temps. » Non, il faut que la victime ait une compréhension claire et nette de qu'est-ce qui a compté dans notre évaluation. Enfin ça, c'est ce que je défends, hein. Je laisserai Laurent parler après. Donc intégrer le tout dans une sorte de dissimulation, voire négation du travail psychique, c'est très important d'identifier, de déterminer. Et ça suppose aussi, et ça, mes collègues n'en sont pas contre, de retravailler la place du mot psychique dans les ITT. Parce qu'il va falloir faire une petite place pour cette façon-là de penser. Voilà, j'espère que je ne suis pas allée... Voilà,
on est parfait.
Merci en tout cas de m'avoir permis cette parole et puis j'attends avec impatience...
Merci beaucoup, madame, de votre intervention. Alors, ce matin, on enchaîne les conférences. L'objectif, c'est vraiment qu'on ait plus de temps au niveau des tables rondes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tout de suite, on va enchaîner avec nos collègues.